Bonjour à tous, vous êtes bien sur 16 Prod, la web radio du collectif Parole et Musique. Nous sommes en présence, et oui, notre invité, il est là, c'est Alain Lecointe. Alain Lecointe, c'est un bassiste que j'ai rencontré il y a très très longtemps, mais avec une dimension musicale extraordinaire. Il fait partie de notre collectif. Il est aussi, il fait partie du groupe Nadavati, c'est ça? C'est ça, Alain? Salut, Alain.
Salut, bonjour tout le monde.
Et salut Alain, merci d'être avec nous. En fait, il est en télécommunication et spéciale à près de 400 km, mais on va faire quand même l'émission ensemble, c'est sûr. Alain, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment la bienvenue et on va aller à ta rencontre, on va faire connaissance avec toi, avec ton univers musical et tu vas nous emmener un petit peu partout dans la musique puisque c'est ce que tu as fait quand j'avais 20 ans et ça m'a gravé toute ma vie. Voilà, je t'écoute, bienvenue sur 16 Prod Musique, sur le café Parole et Musique, c'est autre chose, sur l'émission Parole et Musique et ben, c'est à toi.
Eh bien, je te remercie de m'avoir invité, c'est très gentil. Bah voilà, donc moi je suis musicien, bassiste. Je n'ai pas toujours été bassiste dans une autre vie, il y a très longtemps d'ailleurs. J'ai même été chanteur et même batteur. Et donc j'ai craqué pour la musique quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que je suis né le siècle dernier. Bah comme toi d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais au début du siècle dernier, c'est-à-dire dans la première moitié du siècle, je suis né avant les années 50, et à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien du tout. Le seul moment où je pouvais entendre de la musique, c'était sur le poste de radio de mon grand-père, et il écoutait soit de l'opéra, il avait d'ailleurs un tourne-disque et des disques en cire sur lesquels il écoutait de l'opéra, et j'écoutais les voix des ténors et les chœurs derrière l'opéra. Ça, c'était très impressionnant. Et c'est ce que, quand j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans, pas plus, d'entendre des voix comme ça, avec entourées des voix, des grosses voix de ténor, comme mon grand-père aimait beaucoup Georges Thill, qui était un ténor français, Caruso, évidemment, à ces époques-là. Quand t'es gamin comme ça et que tu entends ça, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup impressionné. Et même, je me souviens, il y avait des moments où je me cachais sous la table parce que la musique, des fois, ça me faisait peur. Hein. Ça faisait tellement une ambiance. C'est-à-dire que la musique, c'est une chose qui t'emmène dans des endroits, dans des univers que tu ne peux pas soupçonner. Et pour moi, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que la musique, c'était quelque chose d'extraordinaire et d'important. Et donc aussi, par exemple, Ima Sumac, ça a été une de mes grandes révélations aussi, parce que avec sa tessiture de voix, c'était la première fois que j'entendais des percussions, et ça, les percussions, ça m'a toujours fasciné, je ne sais pas pourquoi. Ça résonne en moi, la percussion. Et je me souviens de ce mélange de percussion et de voix, avec sa voix qui avait du grave à la 4 octaves, hein. Donc du grave au super aigu, c'était très très impressionnant.
Et
voilà.
Et alors donc tu connais le principe de l'émission, c'est pour les auditeurs, je le rappelle, c'est un artiste, une playlist. Et là, je crois que tu nous as choisi quelques perles et tu nous proposes d'écouter Ima Sumac là, c'est ça?
Oui, alors Ima Sumac, oui, parce que c'est donc le départ un peu de mon intérêt pour la musique.
D'accord.
Et donc si on peut écouter Ima Sumac.
Quel titre? Formidable.
Alors, on a Gopher Mambo.
Allez, c'est parti, on l'écoute tout de suite. Dip, 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 dip
yip yip jumbo bo a ka jumbo yip yip jumbo bo a ka jumbo yip yip jumbo bo
Quelle voix, c'est phénoménal, phénoménal. Ah oui, merci, formidable. Merci pour cette perle. Merci. Voilà. Et moi aussi, ça vibre. Hein, moi, bon, en tant que percussionniste, bien sûr, mais c'est surtout que mon beau papa, il a joué, figure-toi, les bongos avec Oumassoumak.
Ah, je ne savais pas. Super.
Si, si, il a même une photo et tout. Et il a fait son selfie de l'époque avec Oumassoumak.
Ah, donc, c'est génial.
Ouais, non, c'est une voix incroyable. Et c'est une artiste qui a une force sur scène, ce que me disait mon papa, qui est extraordinaire. Elle est toute petite, mais alors une force sur scène incroyable. Et donc, toi, tu as connu les disques en cire, c'est ça?
Oui, absolument.
C'est même avant le vinyle.
Avant le vinyle, ouais, ça pesait 3 tonnes d'ailleurs. C'est très lourd, un disque en cire. Je ne sais pas si tu en as eu déjà dans les mains.
Non, j'en ai jamais eu dans les mains.
Eh ben ouais, c'est un truc, c'est vraiment, ça pèse, quoi.
Ah ouais.
Et oui, donc pendant très longtemps, je connaissais que ça. Hein, et puis bon, après, heureusement, ça a évolué. Et puis.
Et là, tu vois que sur notre playlist, là, tu nous parles d'un fabuleux guitariste qui a changé, je crois, l'histoire de la guitare. Toi, tu es bassiste.
Ah oui,
et. Bah, je te laisse en parler, parce que c'est ton choix de playlist, c'est à toi.
Oui, alors, donc, si tu veux, après Uumassoumak et l'opéra, il s'est passé quand même beaucoup de choses, hein, entre la naissance du rock'n'roll, etc., mais chose à laquelle je n'ai pas vraiment assisté, parce que j'étais encore un peu trop jeune, mais après, bon, dans les années 60, il y a eu les nouvelles vedettes, Johnny Hallyday, Claude François et j'en passe, et des meilleurs, ce qu'on appelait les yéyés à l'époque, tu vois, qui faisaient en général, au début de leur carrière, uniquement que des reprises de standards de la musique variété rock américaine. Hein, c'était pas des compositions, hein. Et ça, déjà, c'était un truc qui interpellait, quoi. Hein. Moi, j'aimais pas trop Hallyday, bien que j'ai un jour acheté un album de lui, c'était Olympia 64, donc 1964, hein. Et parce que il était accompagné par un orchestre d'Américains qui s'appelait Joey Les Showmen, et il y avait un chorus de batterie extraordinaire. Et ça, encore une fois, les percussions, le rythme, ça m'a toujours parlé. Et ça, j'avais acheté, hein, c'était un 33 tours avec mes petites économies. Pour ça, il y avait en même temps, à la même époque, les Shadows, avec leur célèbre titre Apache. Mais en fait, ça me plaisait pas beaucoup. Mais sur l'autre face, il y avait 4 titres, hein, à l'époque, sur les 45 tours. Et sur l'autre face, la face B, il y avait un morceau qui s'appelait Little Me. Et il y avait un solo de batterie aussi. Et c'est le truc qui me plaisait. Et ensuite, bon, sont arrivés les Beatles, évidemment. J'étais un grand fan des Beatles. D'ailleurs, je regrette, j'aurais dû mettre une prochaine fois peut-être.
Ouais, la prochaine fois, pas de souci.
Un titre des Beatles qui ont, pareil, eux, révolutionné le genre. Hein. Les Stones, bon, c'est Rolling Stones, c'est rock'n'roll, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préférais quand même les Beatles pour toutes les inventions du son, parce que le son aussi, ça m'a toujours interpellé. J'ai toujours été très attiré par les effets de son, et tout, etc. Et on va en venir à Jimi Hendrix. Si tu passes, en fait, certains morceaux, notamment dans cet album qui est le premier album de d'Hendrix que j'ai entendu, qui s'appelle Are You Experience, il y a une façon de prendre le son et d'utiliser certains artifices comme les bandes passées à l'envers dans le. Réenregistré par-dessus, tu sais, comme les Beatles, pareil, les Beatles sont utilisés dans 2-3 morceaux, ce genre d'artifice sonore. D'ailleurs, je crois que c'était pas Brian Epstein ou non, je me rappelle plus le nom de leur coproducteur. Et tu vois que c'est l'époque, en fait, où tout le monde cherchait des choses, et ça, c'était formidable. Alors, donc, j'ai choisi. J'aurais pu en choisir plein d'autres, hein, parce que Hendrix, il a fait des trucs. Mais encore, pour une fois, le côté percussif de l'intro, par exemple, avec la cloche, là, on n'a pas l'habitude d'entendre ça chez Hendrix, mais c'est marrant. Et puis, c'est le premier disque d'Hendrix qui m'a mis une claque au niveau du son de guitare extraordinaire. Là, tu entends un truc, tu te dis, mais c'est quoi ce son, quoi, c'est extraordinaire. Et puis, le côté énergique... Et puis nouveau, quoi, parce qu'à l'époque, Hendrix, tu prends ça dans la tête. Quoi, hein, ça, moi qui avais l'habitude, issu d'un milieu ouvrier, donc ouvrier, c'est pas péjoratif, hein, je suis très fier de mes origines, mais c'était quand même musette.
Hein, ouais, c'était musique électrique, tout ça.
Mon grand-père, il écoutait encore une fois de l'opéra, etc. Mais sinon, quand il y avait les fêtes de famille, les repas de famille, les trucs de fête, c'était quand même André Verschuren et compagnie. Tu vois, c'était quand même le musette, le passo doble, un truc comme ça. Et ça dansait, quoi. Tu vois, quand même, à la maison, dans l'appartement, on poussait les chaises et ça dansait à la fin du repas. Quoi, tu vois. Ah ouais. Mais donc, quand tu as l'habitude d'écouter ça, et puis toute la variété française que... D'ailleurs, j'aimais beaucoup Charles Trenet, certaines chansons, Beko, comment il s'appelait, enfin bref, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Hein. Mais quand tu entends le Jimi Hendrix la première fois, alors là, c'est la grande baffe. Quoi.
fait.
Quel contraste, quel son, chers auditeurs, vous êtes sur Paroles et Musique, un artiste, une playlist avec notre musicien Alain Lecointe qui est bassiste avec un univers cosmique. Et oui, cosmique, tu vois, j'y suis presque, hein, je l'ai fait deux fois, mais c'est cosmique.
Mais oui, tu n'es pas loin du compte.
Oui, et justement, donc Ima Sumac, une voix extraordinaire, Jimi Hendrix qui arrive avec ce premier album qui révolutionne, je pense, le son, et c'est là où tu nous emmènes, et on continue, on te suit tranquillement, on t'écoute.
D'accord, bah, écoute, je voulais juste dire aussi que ce qui était intéressant dans la musique, c'était le son, et que toutes les premières expériences que j'ai faites, expériences dans le sens écouter, entendre des nouvelles choses, c'était aussi parce qu'il y avait un son particulier, une ambiance particulière. Et par exemple, quand j'étais... la première fois que mes parents m'ont acheté un transistor à l'époque, hein, parce qu'il y avait, les transistors, on écoutait la musique à travers les transistors. Et que le soir, c'était le soir où il y avait simplement les émissions intéressantes. Enfin, bon, il y avait Salut les copains, SLC, où tu avais tous les yéyés dont je parlais tout à l'heure. Et le soir, tu avais des émissions tard. Et donc, j'étais obligé d'aller me coucher. Mais alors, évidemment, comme tous les gamins, eh ben, je prenais mon transistor, je me mettais sous les couvertures avec la tête, l'oreille collée au haut-parleur du transistor, un volume tout faible pour pas que les parents entendent, évidemment. Et j'écoutais des trucs. Et un des premiers trucs du rock, par exemple, qui m'ont absolument fait un choc aussi, c'était Jerry Lee Lewis. Qui était enregistré live à Hambourg, je m'en souviendrai toujours, et le rock que je connaissais pas sous ces formes-là, ça m'a pareil, il y avait une espèce de son énorme, bien gras, bien, tu vois, bien costaud, et ça je comprends, c'était un truc qui me fascinait, quoi.
Mais t'écoutais ça avec un transistor, avec un petit truc médium, quoi, et tu sentais...
Oui, j'avais l'oreille collée au truc, et je... Tu sentais, enfin moi, je le sentais, évidemment, ça changeait des trucs enregistrés à Claude François, Richard Anthony et tout ce qu'on entendait à l'époque.
Tu sentais le décalage, quoi.
Il y avait un décalage énorme entre ce que reproduisait comment dire, les versions françaises des chanteurs français de l'époque avec les originaux. Et alors ça, tu peux pas lutter, quoi. Il y avait une force dans ce truc, surtout live en plus, parce que j'ai toujours préféré les enregistrements live aux enregistrements studio. Bon, il y a des enregistrements studio fantastiques, hein, y a rien à dire. Mais à chaque fois que j'écoute une version live d'un morceau studio, je préfère la version live, ça c'est clair. Et donc, tout ça pour dire que le son, c'est un truc franchement primordial aussi, la qualité du son, ces choses-là. Et pour finir la parenthèse, quand j'écoutais ce transistor, il y avait une émission le soir, mais c'était tard le soir, alors je faisais vraiment gaffe sous mes couvertures avec mon transistor. C'était, pour ceux qui aiment le jazz, de Daniel Filippaki et Frank Teno. C'était un truc très très connu à l'époque, hein. Frank Teno, un grand journaliste de jazz qui a monté Jazz Magazine, qui a interviewé tous les plus grands musiciens de jazz dans sa carrière, Et là, il y avait des trucs, il y avait le générique, c'était Blue March des Jazz Messengers. Et c'est un truc qui me fascinait aussi, c'était pareil, parce que c'était un truc nouveau. J'entendais Errol Garner, pianiste. Alors, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il jouait à l'époque, parce que c'était des trucs beaucoup plus sophistiqués que le rock et tout ça. Mais le gars, il jouait en chantant, en grommelant. T'entendais le truc par-dessus. Et ce qui me fascinait, c'est qu'il y avait dans son trio un percussionniste. C'était un des rares trios jazz, comme ça, où tu avais batterie, contrebasse, piano, évidemment, et percu. Et là, encore une fois, la percu, ça m'a toujours attiré, le truc, j'ai toujours été attiré par ça. Et donc, on va en arriver à
James Brown.
James Brown, parce que c'est pareil, c'est un autre son, et alors, c'est un truc, là, c'est le côté rythmique, envoûtant,
Je te propose, on l'écoute, et après, allez, tu nous en parles.
Allez, soyons fous.
Merci Alain, tu vois le studio là, il est en mouvement, on ne peut pas rester sans, je sais pas, immobile, c'est pas possible, on a la tête qui base de façon, tu vois, une séquence, on est tous dans le même mood, il est incroyable ce James Brown, et bah, explique-nous qu'est-ce qu'il a d'incroyable pour toi.
Bah écoute, c'est un artiste qui a un peu inventé le... C'est un des inventeurs du funk, de la musique funk, de la musique rhythm and blues. Et tout ce qui est extraordinaire, c'est que c'était un interprète formidable et aussi un musicien formidable parce que c'est lui qui composait absolument toutes les rythmiques. Ce qui est la base de James Brown, c'est le rythme. Il n'y a rien à dire. Et le rythme, c'est la batterie. la basse et après les deux guitares, parce qu'il y avait, en général deux guitares. Et c'est un peu ce qu'on retrouvera aussi chez... ça fait partie de la musique africaine, parce que quand tu regardes comment sont construites les rythmiques de James Brown, tu écoutes Fela, tu connais Fela ?
Oui, oui. Mais peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas. Mais...
Alors, Fela, c'est un chanteur nigérian, du Nigeria, qui a inventé ce qu'on appelle l'afrobeat. Et peut-être que plus tard, on en parlera en parlant de la musique africaine. Ces constructions rythmiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça part de la batterie, le rythme de batterie, la basse qui se met dessus et les deux guitares qui font tourner le rythme. Et donc, mais ça, on en reviendra quand on a...
Actuellement, je crois qu'on appelle ça, en général, tu dis, une musique où le rythme est présent, c'est drum and bass, tu vois. Ce jeu entre la basse et la guitare, maintenant, hein, je te dis ça.
Ouais. Le drum and bass, c'est quand même beaucoup moins rythmé, je dirais. Enfin, c'est un autre truc. C'est autre chose, je dirais. Enfin,
vas-y, on voit. Dis-le.
Je dirais que c'est autre chose, drum and bass. Là, le cas de James Brown, c'est vraiment particulier. Et donc, c'était un danseur hors pair, évidemment. Hein. C'était un showman extraordinaire. Un chanteur formidable. Hein. Il a fait des indices de jazz, notamment aussi, hein, avec un big band et tout. C'était, il adorait chanter ça. Mais le truc, c'est vraiment la danse, le boogaloo, et les rythmiques, quoi, les constructions rythmiques qu'il a inventées, c'est formidable. Tu ne peux pas faire autrement que te lever et danser si tu n'as pas de pied gauche comme moi, quoi, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, James Brown, c'est la découverte du rythme and blues. Et quelque part, c'est ce qui m'a aussi certainement inconsciemment orienté sur la musique africaine après, parce que ça en fait partie. D'ailleurs, les rythmiques de Brown, ça fait partie pour moi de la musique africaine. Hein, c'est de la musique afro-américaine, hein, ça c'est clair. Et évidemment, bon, on parle de James Brown. À la même époque, moi, quand j'ai écouté ça, c'est pareil, ça m'a scotché. Et j'entendais ça pour la première fois, c'était pareil.
Toujours sous la couette, avec l'oreille collée au
transistor. Non, j'avais pas le transistor sous la couette pour écouter Salut les copains. Pour ceux qui aiment le jazz et des choses comme ça, non. Mais j'avais des 45 tours. Les 45 tours vinyles à quatre chansons, deux par face. Et il faut surtout pas oublier un qui m'a fait que j'ai adoré, que j'adore toujours. Hein, c'est Otis Redding, bien sûr, formidable chanteur. Alors lui, plus interprète. Bon, il écrivait aussi quand même, mais il était moins musicien que Brown dans le sens où il composait pas les rythmiques. Mais alors, quel chanteur extraordinaire avec une énergie fantastique. Otis Redding, évidemment, ça c'est un, les deux à mettre sur, pour moi en tout cas, sur le même pied, quoi.
Chers auditeurs, vous êtes bien sur la web radio de 16 Prod Music Radio. Et vous êtes à l'émission Un artiste, une playlist du collectif Parole et Musique. Donc Alain, et vous êtes bien sûr avec Alain Lecointe, bassiste cosmique. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ?
Eh bien écoute Louis, je vous réserve une surprise et on va écouter.
Allez, on écoute. We'll be right back. Quelle surprise. Ah là, ils sont plus que énervés là, il y a une force là dans ce titre. Alors raconte-nous ce titre un petit peu, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe?
Alors entre James Brown et ça, donc c'est le Return to Forever qui est le nom du groupe avec Chick Corea, Stanley Clark, Lenny White à la batterie et Bill Connors à la guitare. Alors évidemment, il s'est passé plein de trucs dans la musique, hein, entre les premiers, le Cold Sweat de James Brown. Il y a eu plein d'évolutions comme ça, et les musiciens ont commencé à acquérir beaucoup de techniques. Aux États-Unis, il y avait toutes les écoles qui se sont montées, genre Berkeley, le MIT, toutes ces choses-là. Tous ces gens-là, Chick Corea, Lenny White, Stanley Clark, se sont rencontrés dans ces écoles-là et ont commencé à monter donc des groupes, et ils ont, à ce moment-là, il y a eu une émulation du niveau technique des musiciens. On peut l'entendre dans ce qu'on a écouté là, formidable, parce que la vélocité, la précision qu'il y avait peut-être moins avant. Alors avant, il y a toujours eu de très bons musiciens techniquement parlant, mais moins en nombre, et on était plutôt basé sur ce qu'on appellerait le groove, le rythme, la musique posée, les trucs, la virtuosité était réservée aux classiques en fait. Hein. Tous les musiciens classiques travaillaient à la virtuosité. Là, ce qu'on entend, c'est effectivement ce qu'on a entendu. C'est virtuose, on ne peut plus virtuose. Formidable. Mais il y a aussi, on l'entend avec le jeu de batterie, toujours un côté percussif qui, moi, personnellement, m'a toujours attiré, et un côté rythmique quand même qui fait que, malgré toute cette avalanche de notes, il y a toujours un côté rythmique, un côté groovy, quoi, que je trouve formidable. Et tout ça fait partie, en fait, c'est une évolution, quoi, de la musique et de la manière d'aborder la musique par les jeunes musiciens. Et tout ça nous vient évidemment des États-Unis, hein, parce qu'en France, à cette époque-là, on en était assez loin, quoi. Il y avait peu de groupes.
En plus, je pense que là, les musiciens dont tu as nommé, c'est vraiment des musiciens, en plus, de différents univers musicaux, hein. Chick Corea, portoricain, je crois qu'il est portoricain, hein,
Absolument.
Et c'est un des premiers dans le Latin Jazz qui pousse encore un peu plus loin avec des nouveaux sons. Et puis derrière, tu as quand même des jazzmen qui, issus du bop, et qui innovent. Je ne sais pas.
Alors non.
On n'est jamais d'accord. Vas-y, explique-nous. Dis-nous.
En fait, Stanley Clark, Stanley Clark, à l'époque, ils avaient tous ils sont du même âge. Hein. Ils étaient élèves donc à Berkeley, donc ils sont tous de la même promotion. Donc, Lenny White.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que dans le bop, déjà, tu avais cet esprit de jouer vite.
Ah oui,
bon. Très rangé. Voilà, et qu'ils se challengeaient déjà dans les choruses, tout ça. Mais là, c'est des compositions qui sont faites là-dessus, c'est plus des impros.
Voilà, ça, c'est pas des impros, c'est des compositions. Mais ils ont plutôt une vision plutôt rock quand même, hein, quand t'entends le son. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et à l'époque, il y avait les groupes. Un petit peu avant ça, tu avais quand même les groupes anglais, style Yes, King Crimson, où il y avait quand même aussi quelques virtuoses de l'instrument. Hein, Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Mais là on est je vois l'analogie que tu veux faire avec que tu fais avec le bebop, mais eux ils ont ça a rien à voir. Hein. Enfin certainement qu'à Berkeley on leur a parlé du bop et qu'ils ont étudié ça c'est sûr.
Bah, je suis sûr qu'ils sont passés par un truc comme ça.
Mais leurs influences elles sont pas là. Hein. Elles sont ailleurs. Hein. Bon de toute façon Correa, je sais qu'il a étudié aussi le classique. Hein. Il a joué il a fait quelques albums, pas beaucoup, mais de musique classique. Notamment, c'était je vais pas le dire, je vais dire une bêtise, mais de compositeurs classiques connus dans le milieu classique.
Donc pour toi, la virtuosité, comme tu l'as dit précédemment, ça vient plutôt du classique que de ce courant bop qu'il y avait que moi, j'imagine.
C'est les deux, mon capitaine.
Alors, on est d'accord. Ok, pas de souci, c'est les deux, effectivement.
Je ne vais pas trancher là-dedans parce que.
Mais ce que j'aime, c'est cette histoire où tu me dis il y a quand même une touche rock. Alors, explique-moi la touche rock.
Ah ben, la touche rock, c'est dans le son et dans la puissance du jeu, quoi. Tu vois, c'est t'entends la batterie de Lenny White, il fait pas semblant, il joue pas au ballet, quoi. Tu vois, il joue avec les baguettes et il tape quand même.
À l'énergie, ouais.
Il y a une énergie formidable et c'est pas un truc. Ce que j'aime un peu dans ce disque, c'est que par rapport à d'autres disques qui étaient bien enregistrés, bien propres, là, c'est sale. Il y a un côté.
Trash.
Presque trash. Il y a un côté un peu. Je sais pas comment dire, mais un côté un peu sale qui est pas. Ça distord, il y a un peu de distorsion. La basse, elle tord. Ça distord, quoi, c'est, tu vois.
Ouais, mais d'où le jazz. Mais quand même, ça a l'air précis, quand même, hein, les gars.
Ah oui, non, mais c'est complètement. Le son est comme ça, mais c'est d'une précision, c'est extraordinaire. Hein. Moi, à l'époque, quand j'ai écouté ça, je ne comprenais absolument pas comment il pouvait jouer comme ça. Je ne comprenais pas.
Sous ta couette, le son transistor.
C'était un truc.
Tu les as vus en live, eux?
Oui, je les ai vus la première fois qu'ils sont passés à Paris, à l'Olympia, pareil. Et c'était marrant parce que quand on est arrivés, ils étaient en retard au concert, mais pas parce qu'ils jouaient les stars, c'est parce qu'en fait, ils avaient été retenus à je ne sais plus quelle heure, à Orly ou à Roissy, je ne me rappelle plus. Non, je crois que Roissy n'existait pas à l'époque encore. Je crois que c'était à Orly. Et ils n'avaient pas pu débarquer leur matos, leur matériel, pardon, leurs amplis, etc., etc. Parce que les douaniers étaient pas. Enfin, il y avait un problème avec la douane. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, il avait fallu que les organisateurs ils fassent le tour de Paris, de tous les magasins de musique de Paris.
À Pigalle, ils ont été à Pigalle.
Ouais, exactement. c'est vrai. Ils ont été chercher Pigalle, Paul Bocher, tout ce qu'il y avait à l'époque. Et ils ont été chercher du matériel, les amplis, le piano. Stanley Clark était venu avec sa basse. Je ne sais même pas. Parce qu'il jouait avec une Fender. Enfin, voilà l'histoire.
Là, je te coupe, chers auditeurs. Est-ce que vous avez remarqué, il jouait avec une Fender. Il connaît le moindre détail. Ce monsieur Alain Lecoin. incroyable.
Et après, il avait une autre basse qu'il a toujours d'ailleurs, avec laquelle il joue toujours d'ailleurs.
Et toi, tu joues avec quoi comme basse?
Alors moi, j'ai ma première basse, c'était une Fender, ouais. Pareil, la jazz bass, hein, qui était normale. Et après, quand j'ai entendu, on en parlera tout à l'heure, Pastorius, j'ai fait retirer les frettes, hein, j'ai fait retirer les barrettes, parce que je voulais un son qui ressemble, pas le même son évidemment, parce que c'est toujours impossible, et puis il faut dans la mesure du possible, garder son son, avoir son son à soi-même, pas celui des autres, évidemment, ça ne sert à rien. Et donc, ça, c'est ma première vraie basse, parce qu'avant, j'avais une Aria que j'avais achetée à mon beau-frère, enfin bref. Et sinon, j'ai d'autres basses, là, j'ai une Ibanez électro-acoustique défrettée aussi, sans fret, j'ai une Tune. Une guitare, une basse, c'est celle que tu as connue avec laquelle je jouais au Tremaillet, mais celle-là frettée normalement avec les frettes. J'ai une 5 cordes oui, une 5 cordes, et une Apex 4 cordes, qui était une guitare faite avec, par un luthier.
Cher Alain, tu nous proposes, là je vois dans la playlist Slide avec Herbie Hancock, on l'écoute tout de suite et tu nous en parles, ok?
D'accord, bonne écoute.
Encore un morceau percu où j'entends des congas, j'entends une rythmique complètement affolée, un groove incroyable. C'est qui alors ces gens-là? C'est Herbie Hancock et...
Alors c'est Herbie Hancock et c'est les Chasseurs de Tête, le Hidden Hunters, qui est sorti avec une pochette incroyable. Donc, tu vois Herbie Hancock de face avec... deux mains posées sur le piano et au niveau de la tête, c'est un masque africain et avec des compteurs, comme un compteur avec une flèche, tu sais, les compteurs de studio. Voilà. Et ça, donc, le groupe s'appelait Hidden Hunters avec Herbie Hancock au clavier, compositeur, avec Harvey Mason à la batterie, avec Paul Jackson à la basse, avec Benny Maupin au sax, aux flûtes, aux divers instruments avant. Il jouait aussi beaucoup de clarinette basse dans ce groupe, et Bill Summers aux percussions. Et c'est pareil, ça a été une claque, pour être poli, quand j'ai écouté ça.
T'as pris des baffes, t'as pris des claques.
Des mandales, tout un tas de trucs. Mais si tu veux, c'est pareil, ce qui m'a mis assis, quoi, c'est le son de ce groupe avec cette batterie. J'adore le son. Je trouve que le son qu'il y a dans cet album, le son de batterie qu'il y a dans cet album, est le meilleur son que j'ai jamais entendu dans aucun disque pour cette musique-là. Le son hyper compact, hyper précis. C'est-à-dire, t'as pas un truc qui sort du son, quoi. Pour moi, c'est formidable. J'adore ce son. Et puis la musique, évidemment, Herbie, quoi. Alors, j'aurais pu mettre le tube de cet album, parce que dans cet album, il y a un tube qui s'appelle Caméléon, que tu connais certainement. Pom, 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 pé, pom, ouais, ouais. Pom, pom. Tu vois ? Donc, ça, c'est un truc qui est connu au-delà de la sphère jazzistique, quoi. Ça, l'osmose basse batterie percu, même puis clavier, parce que Herbie fait des rythmiques c'était clavinette Honor à l'époque, tu sais, c'était la marque Honor, et ils ont fait un tabac avec cet instrument qui est un clavecin des années 1900, quoi, hein, c'est un truc de folie, des années 70-80, qui a un son vraiment spécifique, qui se jouait beaucoup avec une branchée sur une wah-wah, comme les guitaristes, tu sais. Et il fait des rythmiques de ce truc, Herbie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'ai toujours été attiré par la, je parle beaucoup de rythmique.
Hein. Ah bah là, je pense qu'on a 40 minutes, on a parlé de rythmique. Ça c'est clair. Là,
ah oui, parce que c'est la pulsation, c'est la base de la musique. Si t'as pas de pulsation, si t'as pas de rythme, t'as pas de musique. C'est impossible, même dans les classiques. Hein. Les classiques, si t'as pas dans le classique, même un piano qui joue tout seul, si t'as pas un rythme, du rythme, t'as pas de musique.
Bien
la musique,
sûr, c'est la respiration, bien sûr.
Voilà. Et donc voilà, Herbie, d'autres coréens, c'était un peu différent, mais lui, c'est vraiment le groove à fond. Et alors ça, moi, j'adore.
Eh ben ça, je peux te comprendre. En tout cas, là, on a frôlé le free jazz. Hein, avec ce solo. Et donc, on part quand même de Imasumac. Hein. On est quand même parti de Imasumac. Tu étais avec un transistor, avec un haut-parleur de quoi ? De 15 centimètres, même pas ?
À peine.
Médium, sous la couette. Donc, bien sûr, pas de reverb. Mais déjà, une ultra-sensibilité au son, à la musicalité du son. Et ce rapport, moi, ce que j'aime là dans ce que tu dis, c'est tout ce rapport affectif, c'est-à-dire ce lien entre la musique, la progression musicale, et aussi le contexte que tu nous décris autour de... Et on sent que c'est presque viscéral, quoi. Quand tu nous dis, je ne sais pas comment expliquer les vibrations de la percussion, je trouve ça super intéressant. J'adore cette approche par rapport à la musique, tout simplement, cette approche affective, cette approche sensible à la musique. En tout cas, Alain, on va bientôt arriver, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais encore écouter plein de morceaux. Et là, qu'est-ce que tu nous proposes là, tout de suite, là, qu'il faut, là, s'il fallait qu'on coupe là, tout de suite, qu'est-ce qu'il faudrait écouter ?
Ah oui, mais alors là,
À part Pastorius, parce qu'on le mettra à la fin.
On va mettre à la fin, d'accord. Alors là, j'ai noté plein de trucs. Il y avait donc Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. Il y avait un morceau formidable de Weather Report avec Joe Zawinul et les Wayne Shorter, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Un immense musicien. Il y avait Joel Cantrell, évidemment. Et puis, donc, on va passer par Miles Davis, si tu veux.
Hein. Miles Davis, on y va.
Oui.
C'est parti. Oui. We'll be right back. Alain Lecointe, c'est notre invité, c'est notre bassiste cosmique du collectif, Paroles et Musique. Vous êtes sur l'émission Un artiste, une playlist. Merci d'avoir suivi cette émission avec Alain. Alain Lecointe, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment. Merci pour nous avoir partagé cet univers cosmique. Musical oui, avec cette approche très affective. Ima Sumac, Miles Davis, Jimi Hendrix. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont pouvoir compléter leur discothèque parce que tu nous as fait écouter les incontournables. Ça, c'est sûr, même au niveau du son. Alors, est-ce que tu as un mot pour nos auditeurs? Et puis, bien sûr, on va te retrouver très rapidement sur notre radio pour parler encore plus de musique, des styles, de tout ce que tu as envie de dire, parce que ça se sent, cette passion pour la musique. Alain, on t'écoute, un petit mot pour nos auditeurs.
Voilà, ben merci Louis, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Ça a passé très vite, j'aurais voulu vous faire écouter plein de choses. Mais on reviendra, Louis m'a dit qu'on reviendra.
Donc c'est promis, c'est promis.
C'est cool.
C'est même programmé, donc, ça y est.
Donc on a écouté Miles Davis, là, donc un album qui s'appelle Live Evil, qui est sorti juste après un album qui s'appelait Beaches Brew, alors qui est un album qui a révolutionné la musique de Miles, justement, parce que avant ça, il faisait vraiment du jazz traditionnel acoustique, enfin traditionnel. Ça devenait de moins en moins traditionnel. Et d'un seul coup, il a coupé tout ce qui était acoustique et il a fait de la musique telle qu'on l'entend là, électrique. D'ailleurs, tous les puristes jazzmen n'étaient vraiment pas contents. Et non, ils aimaient pas ça du tout. Et dans cet album, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une partie des musiciens que j'ai voulu qu'on a écouté. C'est-à-dire, il y a Chick Corea, John McLaughlin avec du Mahavishnu Orchestra, Herbie Hancock qu'on a écouté, Joe Zawinul qu'on aurait pu écouter de Weather Report, et ils sont Keith Jarrett aussi qu'on n'a pas écouté mais qui est un immense pianiste, et ils sont tous dans cet album. C'est-à-dire, ils jouent soit ensemble soit séparément dans les morceaux, et c'est une des influences majeures de la musique de jazz qui est devenue après. Après ça, et bien ils ont, après avoir joué avec Miles Davis, tous ces musiciens ont monté leur projet et ont fait ce qu'on a écouté et ce qu'on écoutera par la suite.
Et Alain, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs là, pour la fin, un petit message par rapport justement à cette approche de la musique? Quel serait le message?
Bah, c'est d'écouter la musique sans a priori, c'est-à-dire se laisser aller complètement, porté par le son, par l'ambiance qu'on peut trouver dans la musique. Si tu parlais d'un grand écart entre Ima Sumac et ce qu'on écoute à la fin, mais en fait pour moi il n'y a pas tellement de grand écart, dans le sens où quand j'étais gamin et que j'avais 5 ans, que j'écoutais Ima Sumac, ça m'emmenait dans des endroits où je m'imaginais dans la jungle ou dans des endroits que je connaissais pas du tout, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est ça la musique, c'est se laisser aller aux vibrations que ça amène, se laisser aller à l'imagination, à ce que peut représenter, ce que peuvent représenter les sons. Et comme tu disais, la musique pour moi, c'est quand même quelque chose de très, on pourrait dire pas intellectuel, le mot est pas bon, mais qui appelle l'imagination, mais c'est aussi très organique, très terrestre, dans le sens où, par exemple, tout ce qui est percussion, moi, c'est ce que ça me procure. C'est-à-dire, à chaque fois que j'entends des percussions, c'est toujours un côté tellurique. Et c'est important, c'est la vibration de la vie. Pour moi, c'est ça la musique.
Je te remercie, Alain, sur ces mots. On se retrouve très, très bientôt sur Cesprod Music. Pareil, sur le même concept. Un artiste, une playlist. On pourra encore disserter sur différents styles. Je sais que tu aimes ça. Moi aussi, j'adore ça. Donc, on fait que juste un au revoir à nos auditeurs. Et comme cadeau, c'est Jaco Pastorius, n'est-ce pas ?
Absolument. Alors, Jaco Pastorius, vous allez voir, c'est formidable.
Alors, je te dis au revoir. Je t'embrasse. Et à très vite.
Au revoir tout le monde. Merci à Louis. Merci à tous. Thank you.